Chapitre 13 Suite. Cela étant, en quoi un culte national, simple milieu pour les hommes libres et organisé par eux, pourrait-il blesser leur liberté, leur personnalité? Vraiment, vous paraît-il donc si difficile qu'un culte national puisse s'organiser, qui pourtant ne blesse en rien la liberté de l'esprit humain, l'indépendance et la personnalité de chaque citoyen? Je suppose que la société, comme concile, est décidé des cérémonies religieuses qui doivent accompagner la naissance, le mariage, la mort. Quoi que vous vouliez être, vous êtes bien forcé d'avoir de pareilles cérémonies, et maintenant même, vous en avez de par le code et la loi. Seulement, elles sont athées et repoussantes pour toute âme élevée. Je suppose donc que la vérité religieuse, la foi, l'enthousiasme, la poésie, la science, ait pris la place de l'ignorance et de l'athéisme auprès du berceau, du lit nuptial et de la tombe, et que la municipalité soit devenue ce qu'elle devrait être, un lieu auguste, un temple. En quoi l'homme le plus indépendant, le plus éloigné même des opinions régnantes de son temps, pourrait-il être lésé dans sa conscience par de telles cérémonies? Vous trouvez que la prière prononcée sur la tête de votre enfant ou sur la tombe de votre mère ne répond pas à votre religion. C'est la prière nationale, c'est l'expression de la foi générale de l'humanité en ce temps. Vous aviez le droit d'ajouter à cette prière dans votre cœur et de corriger en vous-même cette prière comme vous l'entendiez. Votre droit individuel est donc satisfait. Maintenant, faites plus. Vous êtes citoyen et comme tel, vous faites partie de l'Église. Demandez, demandez hautement, que le culte qui ne vous contente pas soit modifié. Proposez vous-même à vos concitoyens une autre prière. Certes, je ne connais rien qui soit autant de droit individuel que le mariage. Honte aux théocrates de nos jours qui ont rêvé je ne sais quelle intervention coupable dans les relations des sexes. Mais parce que le mariage est un fait d'individualité et de liberté fondé sur le consentement de l'homme et de la femme qui le contracte, s'ensuit-il que la société n'ait pas le droit et le devoir de formuler sa foi religieuse sur la sainteté de ce contrat? Donc, ce que la société aura dit à l'enfant à ce sujet, ce qu'elle lui aura enseigné dogmatiquement, elle pourra le répéter à l'homme libre, soit dans la cérémonie du mariage, soit dans la cérémonie du divorce. Et l'homme libre n'en sera pas moins libre, et il n'aura pas à se plaindre de la loi qui lui rappelle l'idéal et le lui met devant les yeux, mais lui laisse son droit. S'il entre dans la volonté nationale d'avoir dans toute ville et dans toute bourgade un représentant de sa science et de sa moralité, chargé d'instruire et de moraliser le peuple, quel citoyen aura à se plaindre quand même, ce que je ne suppose pas, la loi l'obligerait à aller écouter, à certains jours de fête, cet orateur du peuple, comme la loi l'oblige aujourd'hui au service de la garde nationale? Puisqu'il est convenu que cet homme qui parle et enseigne n'est que primus inter pares, un homme choisi d'entre le peuple pour parler et enseigner, en quoi la dignité de chacun est-elle violée? Vous n'êtes pas satisfait de la parole de cet homme. Écoutez-le d'abord avec respect, car il est dans sa fonction et il représente l'État. Puis jugez-le dans vos écrits comme vous l'entendrez. Faites mieux, entrez vous-même dans sa fonction, portez-vous aspirant à ce ministère, prenez vos grades pour y arriver, et montrez-nous un philosophe plus digne d'enseigner, un orateur plus capable de porter la parole au nom du peuple. Mais je m'arrête. Ce sujet est beaucoup trop vaste et trop difficile pour le traiter d'un coup. Qu'il me suffise d'avoir essayé de poser un principe. Je tenterai, et j'ai déjà tenté dans d'autres écrits, d'appliquer ce principe à des questions spéciales.